Vichy, Paul, Touffe, trouvait le port tête sortie. Même dans la droite, faut point cuisir l'infier. Grand Fox, Saint-Pierre, Piche, Jolin, peuvent tirer pour mi. Iker, je t'écouère, je scorange le clet fier.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Aujourd'hui, nous allons réécouter d'abord l'analyse des CM2, CE2 de l'école Maurice Thorez B à propos de l'incinérateur d'Ivry. Il compare deux photos qui sont très différentes et il se demande pourquoi. Et ensuite, on réécoutera des interviews et des reportages. Nicolas Grébert, journaliste radio qui avait été interviewé en 2021. L'équipe de journalistes d'Arte Junior avait été interviewée en 2023. Les élèves journalistes du concours Mediatics avaient été interviewés en 2024. Et enfin, Dominique Valdisperger, qui est créateur sonore ivrien, j'espère que je n'écorche pas son nom, avait donné une interview il y a 10 ans, en 2015. Voilà, n'oubliez pas, si vous souhaitez écouter les descriptions des photos, qu'un questionnaire et les photos sont disponibles sur le site de Radio Cartable. Bonne écoute!
Radio Cartable. École d'Ivry.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Bonjour, nous sommes les CE2 CM2 de l'école Maurice Thorez B. Et cette année, nous allons décrypter pour vous des images d'actualité. Nous allons les présenter, les décrire et les analyser pour tenter de mettre en lumière le sens et la portée de ces images.
Je suis Alassane et je suis avec
Asita,
Aydin,
Anya.
Cette semaine, nous commençons par des photographies de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine.
Pour vous accompagner dans votre écoute, n'hésitez pas à utiliser la fiche d'écoute. Les deux images sont des photographies. La première photographie, tirée du journal mensuel local Ivry Ma Ville, parue en octobre 2025. Elle a été photographiée par Julie Suburi. Elle représente l'incinérateur de déchets situé à Ivry-sur-Seine. La photographie a été prise de jour.
Le cadrage est large. On voit à la fois le premier plan, le fond et le ciel. Elle semble être prise depuis un point de vue en hauteur, ce qui permet de voir toute la zone et les rails du chemin de fer.
Au premier plan, on voit des rails de train et des poteaux électriques. Au deuxième plan, un bâtiment en briques rouges au milieu des rails et des trains.
À l'arrière-plan se trouve l'incinérateur blanc et gris avec sa tourelle et ses deux cheminées hautes. Le bâtiment est rectangulaire et long. Il occupe une grande partie de l'arrière-plan. À sa droite, au fond, on distingue des immeubles d'habitation.
La lumière est naturelle et claire. La photo a été prise en plein jour, en été ou au printemps. Le ciel est bleu avec des nuages blancs. On a du mal à distinguer la fumée qui sort des cheminées, de l'incinérateur et les nuages blancs du ciel.
La deuxième photographie représente également l'incinérateur, mais elle a été prise la nuit. Le cadrage est plus serré sur le bâtiment principal. On voit surtout l'usine et ses cheminées qui dégagent de la fumée. On a l'impression que c'était depuis un immeuble ou une maison voisine. Ce n'est pas le même point de vue que sur la première photographie. On ne voit pas le même côté de l'incinérateur.
Au premier plan, on voit les silhouettes sombres du haut des arbres et du haut des immeubles voisins. Au deuxième plan, l'incinérateur éclairé et ses fumées blanches se détachent sur le ciel sombre. Les lumières sont cette fois-ci artificielles. Ce sont les lumières de l'incinérateur et de quelques immeubles voisins. Des lumières rouges clignotent sur la tourelle et sur les cheminées. Elles mettent en valeur la structure du bâtiment et les fumées. Cette photographie montre le fonctionnement nocturne de l'incinérateur qui fonctionne en permanence.
Ces deux photographies montrent le même incinérateur, mais pas de la même manière. La première prise de jour en plan large montre l'incinérateur dans son ensemble. Et dans son environnement urbain, elle donne envie de le visiter et d'en savoir plus sur son fonctionnement. La lumière du jour est rassurante et valorise le lieu.
La deuxième photographie, prise de nuit en plan serré, insiste sur le fonctionnement de nuit et les fumées qui se dégagent en permanence. La lumière artificielle nous fait presque penser à un bâtiment futuriste. Une atmosphère inquiétante se dégage de cette image. Cela ne donne pas envie de se promener à côté la nuit.
La première semble nous informer et la deuxième semble dénoncer le fonctionnement de l'incinérateur et ses fumées.
Nous avons également observé une photographie de l'incinérateur tirée du journal Reporter. Elle était cette fois centrée sur les deux grandes cheminées de l'incinérateur rejetant de la fumée grisâtre. Dans un ciel couvert, l'arrière-plan est sombre, les gros nuages renforcent l'atmosphère inquiétante.
Cette photo semble également dénoncer les dangers possibles de l'incinérateur.
Voilà, nous avons fini de vous présenter les photographies de la semaine. Nous espérons que cela vous a intéressé et que vous en savez plus sur les différents types de prises de vue.
Nous vous retrouvons vite dans une prochaine émission avec d'autres photographies d'actualité.
Intéressé. Maintenant sur 89.4 FM, vous retrouvez votre émission littéraire Bibliomanie.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Dans mon cartable.
Bonjour, je m'appelle Thierry.
Bonjour, je m'appelle Gloria.
Bonjour, je m'appelle Yélé.
Bonjour, je m'appelle Salia.
Bonjour, je m'appelle Mickaël.
Bonjour, je m'appelle Thomas.
En résumé de ce micro-trottoir, on constate que beaucoup de personnes ne savent pas comment fabriquer une émission de radio.
Après le micro-trottoir, il nous a donc semblé intéressant de rencontrer un professionnel de la radio.
C'est pourquoi, dans un deuxième temps, nous avons décidé de rencontrer un journaliste
qui s'appelle Nicolas Grébet, qui a l'habitude de travailler en radio.
Nous lui avons posé des tas de questions sur son métier, sur son expérience à la radio et sur le montage d'une émission de radio.
Voici donc maintenant cette interview exclusive.
Nous en profitons pour remercier Nicolas d'être venu dans notre classe et d'avoir répondu à toutes nos questions.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour, nous sommes la classe de CM1C de l'école Albert Einstein. Notre maîtresse s'appelle Kadine Chadera. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Nicolas Grébert. Je suis journaliste radio.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J'ai choisi ce métier parce que j'aime bien savoir ce qui se passe autour de moi, connaître les nouvelles, les informations, ce qui se passe sur notre planète.
Est-ce dur votre métier ?
C'est un métier qui est assez plaisant, qui change souvent, c'est-à-dire qu'on c'est peu routinier. Tous les jours, il se passe des choses nouvelles. On apprend beaucoup. C'est assez agréable.
Dans quel style de radio vous travaillez ?
Actuellement, je travaille dans une radio qui s'appelle RMC, qui est une radio où il n'y a pas du tout de musique, où on parle que d'informations, de sport, beaucoup.
Est-ce que vous avez déjà interviewé des personnes célèbres ?
Ça m'est déjà arrivé de faire des interviews de gens, des artistes, des hommes politiques. Ça m'est déjà arrivé. Quel nom je pourrais vous donner ? C'est presque une colle. J'en ai fait beaucoup, mais des hommes politiques, je sais pas si vous les connaissez. Lionel Jospin.
Dans combien de radios avez-vous travaillé ?
Ma première radio était une radio en Loir-et-Cher, à Blois, qui s'appelait Radio Val-de-Loire. Ensuite, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, dans une radio qui s'appelait Radio Rythme Bleu, très très loin d'ici. Ensuite, je suis revenu à Paris pour travailler dans une radio qui s'appelle 95.2. Ensuite, à l'AFP Audio et RMC, ça fait donc 5 radios.
Depuis combien de temps vous êtes journaliste ?
Je suis journaliste depuis 15 ans.
Quel matériel utilise-t-on ?
Quel matériel j'utilise ? En radio, on utilise des micros et puis des enregistreurs qui sont un petit peu plus gros que ceux que vous avez là. Et puis des stylos et des feuilles de papier. Je dis des crayons et des papiers, mais c'est aussi des ordinateurs. Parce que là, je réponds à vos questions sans préparation. Mais quand on fait un journal, on écrit les informations. Alors soit on peut l'écrire avec le crayon et la feuille blanche, mais c'est plutôt à l'ordinateur qu'on travaille.
Avez-vous des assistants ?
On peut avoir des assistants. En radio, il y a plusieurs types de métiers. Il y a un reporter, il y a un journaliste qui peut poser des questions, il y a aussi ceux qui préparent des émissions. Là, aujourd'hui, où je travaille avec 5 personnes pour préparer toute une émission au matin, toutes les informations au matin.
Avez-vous déjà voyagé ?
Pour mon métier ? Un petit peu, oui, ça dépend là aussi des radios dans lesquelles on travaille et ce qu'on y fait, mais on peut être amené à voyager. Là, je suis à Paris, je peux être amené à aller faire un reportage à Lille, à Marseille, à Bruxelles, peut-être en Belgique, en Grande-Bretagne. On peut voyager.
Aimez-vous votre métier ?
Oui, j'aime bien mon métier. C'est un métier qui est très intéressant où on fait... On apprend tous les jours, on s'intéresse à des tas de choses, c'est assez enrichissant.
Mais quel type de journaux ?
Des journaux d'information, c'est des journaux parlés qui sont d'une durée qui est variable. Ça peut être tout simplement ce qu'on appelle un flash d'information qui peut durer une minute ou deux minutes. Comme ça peut être quelque chose de plus long, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Et dans ces journaux, on met l'actualité, ce que vous pouvez lire aussi sur des journaux papier, ce qui s'est passé à Ivry, à Paris, en France, dans le monde, dans le sport, dans le monde du sport.
Combien de temps mettez-vous pour faire un montage ?
Ça dépend de l'interview. On peut parfois si l'interview est bien réalisée et que la personne qu'on interviewe parle bien de manière courte, assez simple, ça peut durer très très peu de temps, comme ça peut durer beaucoup de temps s'il y a plusieurs personnes qui parlent, s'il y a d'autres sons, s'il y a un petit peu de musique, ça peut prendre beaucoup de temps.
Comme quand on vous a posé la question si vous aviez des assistants, vous nous avez dit que ça dépendait, mais vous avez quel rôle dans la radio ?
Moi j'ai un rôle de coordination, c'est-à-dire que je m'occupe de savoir, de regarder l'actualité. On a dans une radio d'information différentes sources d'information. On a ce qu'on appelle l'AFP, l'Agence France Presse, qui toutes les minutes donne des informations qui arrivent, qui nous arrivent. On doit les regarder, les lire et ensuite les sélectionner, savoir quelles informations nous semblent intéressantes, sur lesquelles on souhaite travailler, voilà.
Bonjour, je m'appelle Camille et avez-vous travaillé déjà sur un meurtre ou sur quelque chose comme ça ?
Oui.
Mais est-ce que c'était dangereux de travailler sur ça en fait ?
Ben non, c'est pas dangereux, on fait pas un métier dangereux. Il y a des journalistes qui peuvent faire des reportages risqués, dangereux, notamment ceux qui vont en Irak. Vous avez dû entendre parler des otages, peut-être. Il y a des journalistes qui peuvent être otages, donc ça peut être un métier très dangereux. Moi, je le fais de manière plutôt confortable, puisque je suis comme ici quand je travaille, derrière, assis sur une chaise, derrière un écran.
Est-ce que vous écoutez des fois Radio Cartable ou, je sais pas, des autres radios que, dans lesquelles vous avez travaillé ?
Oui, 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 Radio Cartable, ça m'est arrivé d'écouter, parce que Radio Cartable, c'est une belle radio. On entend beaucoup d'enfants, c'est agréable, et on n'entend pas beaucoup ailleurs.
Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà interviewé des enfants ?
Oui, j'ai déjà interviewé des enfants, j'ai déjà fait des micro-trottoirs avec des enfants. On peut imaginer que je vienne par exemple dans votre école, savoir qu'est-ce que vous pensez, parce que vous avez une école qui ne ressemble pas à toutes les écoles qu'on voit, c'est une école ouverte. Je peux venir vous demander comment... est-ce que vous êtes content d'apprendre dans cette école ? Ça peut être pour ça.
Est-ce que vous avez déjà utilisé du matériel ancien pour faire de la radio ?
Moi, j'ai commencé avec ce qui apparaît aujourd'hui comme du matériel ancien, même si c'est pas très vieux. Mais il y a encore 10 ans, on travaillait sur de la bande. C'est-à-dire, vous voyez quand les cassettes. Eh ben, vous voyez la bande qui passe. Nous, on travaillait auparavant avec de la bande. On enregistrait sur de la bande qui était un petit peu plus grosse. On avait besoin de ciseaux pour faire du montage. C'était pas sur ordinateur. On travaillait avec des ciseaux. On coupait ce qui nous intéressait pas, comme ce que vous faites sur ordinateur, sauf qu'on le faisait à la main avec des ciseaux. Et ensuite, on collait avec un petit collant pour rapprocher les choses. Voilà. Ça, c'était du matériel ancien, ouais.
Faites-vous le montage de façon ancienne ou de façon récente ?
Bah, dites-moi un peu comment vous avez travaillé, comment ça se passe, et puis moi, je vous dirai un peu comment moi, je le fais dans mon métier.
Bah, en fait, on est allé dans une salle informatique, parce qu'on avait déjà interviewé des personnes de l'école avant, et après, on a coupé sur l'ordinateur des bruits qu'on n'aimait pas trop, plein de choses.
Oui, et aussi, on a rajouté de la musique, ou on a rajouté des choses.
Vous avez gardé ce qui vous plaisait le plus dans tout ce que vous avez enregistré, c'est ça ? Je travaille exactement comme vous. C'est-à-dire qu'on enregistre des choses et ensuite on rentre tout ce qu'on a enregistré sur un ordinateur. On arrive à visualiser ce qu'on a enregistré. On enlève ce qui nous plaît pas ou ce qui nous intéresse pas. Et ensuite on réduit tout ça pour avoir un format très défini sur un temps voulu, mais comme vous.
Vous avez déjà interviewé des personnes à Ivry ?
J'ai suivi pendant une ou deux années... toute l'actualité spectacle, et à Ivry il se passe pas mal de choses comme le festival Sons d'Hiver, donc ça m'est déjà arrivé d'interroger des gens qui travaillaient pour ce festival ou qui venaient en résidence à Ivry, ça m'est déjà arrivé.
Encore merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir.
Ben, c'est moi, merci à vous.
Reportage dans mon cartable.
Vraiment très intéressant cette interview. Nous avons eu plein de nouvelles informations qui vont bien nous servir.
Si vous voulez tout savoir sur la suite de notre enquête,
retrouvez-nous les détectives de la radio
dès la semaine prochaine à la même heure
et nous vous ferons écouter
le montage
que nous avons nous-mêmes réalisé.
Bonne semaine à tous.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour, nous sommes les CM1 CM2 de l'école Maurice Thorez B. Nous avons la chance d'aujourd'hui d'avoir avec nous la journaliste Marianne Scorpis-Rimo, l'ingénieur du son Sébastien Guisset et le cadreur Christian Mignard. Ils sont venus tourner un reportage sur Radio Cartable pour Arte Junior et ont accepté de répondre en exclusivité à nos questions. Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Tout d'abord, nous avons quelques questions pour tous les trois, puis nous poserons des questions plus précises pour chacun.
Vous êtes journaliste, cadreur et ingénieur du son. Pourquoi avoir choisi ces métiers ?
J'ai choisi d'être journaliste parce que je suis très curieuse, je m'intéresse à plein de choses. Et quand on est journaliste, on peut traiter de plein de sujets différents, rencontrer plein de gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés sinon, tu vois. Je t'aurais sans doute jamais rencontré si j'avais pas fait ce reportage.
Si nous souhaitons travailler, nous aussi, dans ces domaines, quelles études devons-nous faire ?
Si tu veux être journaliste plus tard, il y a des écoles spécialisées de journalisme. Alors souvent, il faut faire quelques années d'études avant d'entrer dedans. Il faut aller 3 ans à la fac, 2-3 ans à la fac, et après on peut commencer. Et c'est des écoles qui te permettent de choisir ce que tu vas faire, si tu veux faire de la radio, de la télé, de la presse écrite.
Et moi, depuis que j'ai votre âge, je fais du son, parce que j'adore ça. Pour faire ingénieur du son, j'ai fait des mathématiques et de l'électronique. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur du son. Et on choisit les spécialités d'ingénieur du son, soit pour la télé, soit pour le cinéma.
Marianne, vous travaillez actuellement pour Arte, mais depuis combien de temps et travaillez-vous pour d'autres médias ?
Alors, pour Arte, là en mars 2024, ça fera 8 ans avec quelques périodes de pause entre des contrats. Et après, j'ai travaillé pour quelques autres médias, plutôt de la presse écrite et du web avant. Et après, ça m'arrive encore de faire un peu de presse écrite. Mais l'essentiel de mon temps, c'est Arte.
Pouvez-vous nous en dire davantage sur les spécificités d'Arte ?
Oui, alors Arte est une chaîne franco-allemande. C'est un symbole fort puisque la France et l'Allemagne ont été en guerre il y a bien longtemps. Et que bien longtemps après, on a créé cette chaîne qui diffuse tous les jours dans les deux langues, donc en français et en allemand. Mais on a aussi une chaîne européenne, donc on fait aussi des programmes dans d'autres langues. En anglais, en espagnol, en italien et en polonais.
Y a-t-il un reportage, une interview, une rencontre qui vous a particulièrement marqué ?
Alors oui, il y en a plusieurs, mais ce qui me vient en premier, ce qui me vient directement, c'est un petit peu triste. C'était un monsieur âgé qui était à l'hôpital et qui était soigné. Et donc on avait fait un reportage pour expliquer comment on soignait les gens dans ce service. Et c'était très émouvant parce que le monsieur, il nous a raconté des choses assez belle sur sa vie, et puis voilà, il était en mauvaise santé, mais il était très content de nous rencontrer aussi.
Dans le cadre de vos missions, avez-vous été amené à voyager, et si oui, où ?
Alors oui, ça m'est arrivé de voyager, donc déjà dans d'autres endroits en France, pour Arte, notamment en Irlande, et pour de la presse écrite en Laponie, au Svalbard et au Groenland, donc assez loin dans le nord, entre autres.
Reportage dans mon cartable.
Sébastien Guisset, vous êtes ingénieur du son. En quoi consiste votre métier ? Que préférez-vous ? Y a-t-il des choses qui vous déplaisent ou qui sont moins agréables ?
Alors, moi, je suis en effet ingénieur du son et c'est une spécialisation de prise de son à la fois en reportage, mais aussi en plateau. Et puis en tournage en général. Ce que je trouve très intéressant, par exemple, dans cette fonction d'ingénieur du son, c'est que, comme j'ai fait et que je continue à faire des reportages, en fait, je rencontre beaucoup de monde. Je me retrouve dans plein de situations différentes. Et en fait, ces situations différentes, au fur et à mesure, étape par étape, ça t'apprend encore quelque chose sur ton métier. Donc ça, c'est le point très positif. Après, des points négatifs, il n'y en a pas trop, parce que c'est vraiment un métier de passion, en fait. Donc, c'est vrai que parfois t'es un peu fatigué quand tu fais des très grandes journées, que t'es à l'étranger, que t'as passé des contrôles dans des pays super surveillés, que t'as toujours ton matériel, etc. Puis parfois d'avoir du matériel encore plus gros, que tu portes ça un peu sur le dos toute la journée. Bon, mais dès le lendemain, on repart, quoi.
Et vous, Christian, dites-nous en plus sur le métier de cadreur.
Le métier de cadreur consiste à filmer tout ce qui se passe sur le terrain ou dans une classe comme aujourd'hui. Essayer de capter l'ambiance un petit peu. Si c'est dans un bar, ça va être la convivialité, les échanges entre les clients. Si c'est une manifestation, voir si les gens sont en colère. Penser à prendre des plans larges, des plans serrés, des gros plans, les détails sur des pancartes. sur les haut-parleurs, sur les points levés, si c'est des gens qui sont pas contents, si c'est un concert, les sourires, les gens qui applaudissent. C'est penser à tous ces petits détails et ramener un maximum d'images pour que le monteur, ensuite, ait beaucoup de choix. Parce que quand tu tournes toute une journée, tu vas ramener peut-être une heure, deux heures d'images pour un sujet qui fera au final deux minutes. Donc le monteur, qui va travailler avec le ou la journaliste, en une journée, il faut qu'il fasse une sélection des plans pour que ça finisse sur une durée précise de deux minutes. C'est très important.
Reportage dans mon cartable.
Nous vous avons observé lors du reportage et certaines et certains d'entre nous sont très intéressés par vos métiers. Quels conseils pouvez-vous nous donner si nous souhaitons suivre vos pas?
Alors, si tu veux être journaliste, oui, il y a plusieurs conseils. Alors, il y en a un, ça fait référence à ma question tout à l'heure. Déjà, c'est d'être très curieux, de regarder autour de soi. Des fois, les idées de sujets, on les a en lisant les journaux, mais on les a des fois en regardant autour de soi. Par exemple, tu passes dans une rue et tu vois, je sais pas, un immeuble en train d'être détruit ou en construction. Tu vas dire, tiens, qu'est-ce que c'est que l'histoire de cet immeuble? Et peut-être que tu vas avoir une idée de reportage. La deuxième chose, c'est d'être un peu têtu. Parce que des fois, on te dit non pour un sujet. Un journal va te dire non, je prends pas ce sujet, faut peut-être le proposer à un autre. Ou alors, tu vas vouloir interviewer une personne et elle va dire non. Et du coup, tu vas essayer de trouver une autre personne pour ton reportage. Et après, peut-être la troisième chose, c'est de savoir écouter les gens qui te parlent en interview. Des fois, les gens, ils vont te raconter un bout de leur histoire et des fois, elle est peut-être difficile ou, tu vois, c'est un truc important pour eux. Et voilà, faut savoir les écouter et comprendre aussi parfois leurs émotions.
Et vous, Christian, quels conseils pouvez-vous nous donner?
Si tu veux être plus derrière la caméra, faut être bien concentré. Il faut être très rigoureux, il faut être exigeant avec toi pour avoir une bonne forme physique. Parce que tu vois, la caméra peut être lourde et les journées sont longues. Prendre un gros petit déjeuner, ça c'est un journaliste qui me l'a dit un jour. Mais comment ça, tu ne prends pas un gros petit déjeuner? Donc voilà, pour être bien en forme. Et puis être positif, tu vois, quand t'arrives quelque part et puis que ça te paraît un peu difficile, bon ben faut pas trop vite t'inquiéter, faut se dire que ça va bien se passer. Puis rassurer tout le monde, parce que souvent t'as une équipe ou des personnes qui sont inquiètes par le travail qui doit être fait, donc faut leur dire que ça va bien se passer pour les détendre et que les interviews soient réussies. Voilà.
Ce que je peux vous dire, moi, c'est que c'est un métier de passion. Moi, quand j'avais votre âge, par exemple, j'adorais enregistrer, faire comme si je faisais des émissions radio. J'étais chez moi, dans ma petite chambre, comme ça, je passais des disques, voilà. Puis après, j'ai eu un petit enregistreur, j'enregistrais des choses. Et puis, au fur et à mesure, après, je suis allé faire de la musique. J'ai joué de la guitare classique au conservatoire. Si le son vous intéresse, vous allez grandir là-dedans, vous allez apprendre de plus en plus de choses. Lisez des livres, renseignez-vous et amusez-vous, surtout. Amusez-vous.
Merci d'avoir accepté de passer à votre tour derrière le micro pour répondre à nos questions. Nous vous souhaitons une très bonne continuation et d'avoir l'occasion de faire des reportages toujours plus intéressants. Merci de faire vivre l'information.
Merci beaucoup pour les questions et surtout pour votre accueil pour le reportage sur Radio Cartable. On était très contents de vous rencontrer.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Est-ce que vous pouvez parler à votre question?
Bonjour.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va et toi?
Ça va, merci. Est-ce que j'ai une question à te poser? Est-ce que la journée te plaît?
Elle me plaît beaucoup, mais j'attends juste le moment de la bibliothèque.
J'en ai me plaît parce que j'ai découvert des choses très, 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 très intéressantes par les autres classes.
Oui, elle me plaît beaucoup. Ça a été bien de voir les autres nous montrer leurs projets, ce qu'ils ont fait. C'était sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Ouais. Pouvez-vous expliquer votre média ?
Nous, on travaille sur Radio Cartable. On est dans la classe de CM1, CM2 de Torres B. C'est une radio scolaire qui a été créée par tous les enfants de toutes les écoles et maternelles d'Ivry-sur-Seine.
Ah, bah Radio Cartable, c'est une émission faite par des enfants qui partagent les informations mondiales, non seulement en France, mais aussi dans les autres pays. On partage plein de choses.
Pourquoi MJ est journaliste ?
Ça apprend des choses aux gens, de ce qui se passe sur le monde.
Ça apprend quel genre de choses pour le
monde ? Bah, des guerres, des morts, de harcèlement. J'aime être journaliste parce que partager les infos, c'est très intéressant. Et c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que on a tous besoin d'être un peu actualisés.
Et partager quelles infos ?
Moi, en ce qui me concerne, je préfère partager les infos, le racisme, je sais pas, j'aime bien.
Bah, c'est parce que j'aime bien parler aux gens qui sont autour de moi, qui sont en public.
Mais t'aimes bien de parler de quoi aux
Bah, parler de cas graves, découvrir des choses qui sont importantes, tout ça là.
Bonjour.
Bonjour. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Maïlis.
L'école, t'es en quelle classe?
Du coup, je suis en quatrième.
Dans quelle école?
Je suis dans le collège Travail Langevin à Bagnolet.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Anna.
T'es en quelle classe?
Je suis en cinquième.
Quel est ton prénom?
Chloé.
Quel âge as-tu?
J'ai 15 ans.
En quelle classe es-tu?
En troisième. Moi, j'ai 12 ans.
T'es en quelle classe?
Je suis en sixième.
Comment tu t'appelles?
Gaspar.
Est-ce que la journée te plaît?
Oui, ça me plaît beaucoup.
C'est une journée exceptionnelle pour nous.
Peux-tu présenter ton média?
Midi Média. On fait des émissions radio, des émissions télévisées et un journal papier.
Et aujourd'hui, on participe au concours médiatique dans la catégorie Web TV.
On organise des séances tous les vendredis à midi. On parle de beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'y suis depuis la 6e, donc ça fait 4 ans. Et depuis 4 ans, on fait plein de sorties, on apprend plein de trucs, on fait beaucoup de choses, on prend beaucoup de temps pour faire des activités. Du coup, c'est super bien, voilà.
Mon média, j'interview des personnes dans le collège, leur demander ce qu'ils font comme métier, voilà.
Pourquoi aimes-tu être journaliste ?
J'aime être journaliste parce que ça permet de communiquer des informations. Des informations, comme c'est un journal de collège par rapport au collège, mais on fait aussi des informations plus globales comme les JO et ou d'autres, des manifestations, tout ça.
Alors moi, j'aime être journaliste parce que justement j'apprends des choses. J'apprends des informations, j'apprends à filmer, j'apprends à interviewer, j'apprends à écrire. Ça m'a permis beaucoup de choses pour tout ce qui est brevet, tout ce qui est contrôle en français, tout ça, parce qu'on apprend à pas faire de faute d'orthographe. Et aussi à m'exprimer, parce que question de timidité, tout ça, quand on va faire les interviews, faut pas être timide, faut être sûr de soi, etc. Donc voilà.
J'aime bien être journaliste parce que ça nous fait découvrir des personnes qu'on connaissait pas avant. Par exemple, nous, je sais qu'on a été rencontrer une personne qui est aveugle et qui va faire les Jeux Olympiques, du coup. Laetitia Bernard. Et du coup, j'ai bien aimé la rencontrer et qu'elle nous parle de son parcours.
ça me permet d'échanger avec les autres, de découvrir de nouveaux horizons.
Bonjour.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Bien.
T'as quel âge ?
5 ans.
Et tu t'appelles comment ?
Maisie.
Tu t'appelles comment ?
Arthur. Arthur.
Tu as quel âge ?
5 ans.
Dis donc, t'es grand, hein ? Tu es en quelle classe ?
Grande section.
Dans quelle école ?
Casanova, à Ivry-sur-Seine.
Est-ce que la journée te plaît ?
Oui.
Peux-tu expliquer ton métier ?
Je travaille, je fais des activités qu'on prend en photo et qu'on met dans le journal. Je suis un petit peu tout.
Aimes-tu être journaliste ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez parler à votre question ?
Reportage dans mon cartable.
Bonjour à tous.
Nous sommes les enfants du CE1C de l'école Jacques Solomon.
Nous allons interviewer Dominique Waltisperger.
Mais on l'appelle Dom Waltis parce que c'est plus facile à prononcer.
Et c'est qui Dom Waltis ?
C'est un musicien qui construit des instruments de musique.
Il travaille avec les enfants des centres de loisirs d'Ivry.
Il a vécu au Congo de l'âge de 8 ans à 16 ans et c'est là-bas qu'il a appris à construire des instruments de musique.
Nous allons maintenant laisser le micro à nos camarades qui vont lui poser quelques questions.
Pourquoi toi et ta famille êtes-vous allés vivre au Congo quand tu avais 8 ans ?
Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis carrément ému par vos questions. Ça veut dire que vous avez lu l'article qui a été publié dans Ivry Ma Ville. Et, bravo, super. Donc, pour répondre à la question, en fait, j'ai vécu au Congo parce que mon papa a eu une proposition de travail là-bas et que ça l'intéressait beaucoup d'aller travailler en Afrique et de découvrir l'Afrique. Donc, on est parti, il est allé lui tout seul pendant 6 mois et il est revenu en disant que c'était tellement bien que on est parti toute notre famille.
Y a-t-il beaucoup de gens au Congo ?
Ah, oui, alors beaucoup moins qu'en Europe. Je crois que le Congo, qui est grand comme au moins 3 fois comme la France, il y a 1 ou 2 millions d'habitants seulement. Parce que tout le nord du pays, c'est encore la grande forêt, ce qu'on appelle la forêt équatoriale. Et là, il y a très peu de monde. Quelques ethnies pygmées, etc. C'est encore des pays qui sont très sauvages. Hein. C'est comme l'Amazonie au Brésil, enfin en Amérique du Sud.
Comment se fait-il qu'au Congo, les gens jouent de la musique partout ?
C'est une question très intéressante. En fait, c'est dans la culture africaine de faire beaucoup de musique. Et la musique, elle se pratique pas comme ici. Surtout, c'est la grande différence. On fait pas seulement de la musique dans des salles de concert où les gens achètent un billet pour venir voir un artiste. On fait de la musique en famille, chez soi, dans la rue. Il y a des musiciens qui jouent dans la rue, les gens se mettent autour, mais aussi pour des fêtes, pour des rituels. Et c'est très important dans la culture de ces pays.
Pourquoi as-tu eu envie de construire des instruments de musique ?
Alors parce que les instruments que j'ai commencé à jouer et qui m'ont intéressé sont les percussions. Les percussions, c'est tous les instruments qu'on tape, qu'on frotte, qu'on secoue, etc., qui sont assez accessibles manuellement. Et donc déjà quand j'étais enfant en Afrique, il y a très peu d'instruments là-bas parce que il y a pas non plus toutes les usines, toutes les fabrications qu'on a ici. Donc déjà les Africains eux-mêmes, ils fabriquent leurs instruments. Le musicien là-bas, il fabrique ou il va chez un artisan qui fabrique. Mais moi, étant enfant, j'ai commencé à, comme j'avais ni argent ni possibilité d'acheter des instruments, j'ai déjà commencé pour faire des percussions à explorer un peu tout ce que je trouvais, à me fabriquer mes instruments. Et donc ensuite, ça a continué.
T'as donné envie d'être musicien et de travailler dans des centres de loisirs?
L'envie de la musique, elle est... Bon, je l'avais déjà avant de partir en Afrique. Je chantais quand j'étais petit dans une chorale. Avec, d'ailleurs, c'était mon maître d'école qui, dans l'école où je vivais en France, avant d'aller en Afrique, avait nous faisait chanter. Tous les donc quand j'étais à peu près à votre âge, donc déjà j'aimais beaucoup la musique. Et puis en Afrique, en découvrant tout ça, les percussions, là j'ai vraiment aimé ça beaucoup. Et puis ensuite j'ai toujours continué, etc. Et puis j'ai fini par ne faire plus que ça. Et à un moment, quand je suis revenu après l'Afrique, j'ai vécu en Provence, dans le sud. Et là j'avais des amis à moi qui avaient des enfants. Et donc j'ai commencé dans ma maison à accueillir les enfants de mes amis et à faire de la musique avec eux. Ensuite j'ai été travailler dans des centres des fois hospitaliers pour des enfants malades, des enfants handicapés, etc. Pour partager cette passion, on va dire. Et puis quand je suis arrivé à Ivry, ça fait un bon moment maintenant, on m'a proposé de travailler avec les enfants des centres de loisirs. Et ça continue depuis.
As-tu décidé de travailler avec des enfants? Travailles-tu aussi avec des adultes?
Oui, bien sûr, c'est intéressant comme question aussi. Bon, avec le travail avec les enfants, j'aime beaucoup parce que c'est une façon de transmettre un petit peu ma passion et ce que je sais de la musique, ce que j'ai appris moi-même grâce à d'autres adultes avant. Et donc il y a cette chose qui est importante, et puis ce partage, et puis la musique c'est aussi un jeu, c'est un langage. Donc je trouve vraiment intéressant de partager ça avec les enfants. Mais effectivement, je continue toujours à travailler aussi, à faire des concerts, des spectacles, etc., avec des adultes. Et voilà, j'ai un spectacle d'ailleurs que je fais des fois avec Toufik, un animateur qui travaille ici, hein, que vous connaissez, qui joue avec moi, etc., et d'autres gens, et dans différents styles de musique. J'accompagne beaucoup de danseurs aussi. J'aime beaucoup jouer, faire de la musique pour les danseurs. Hein, la musique et la danse, c'est complémentaire. Et puis effectivement, il y a les spectacles qu'on a fait avec les enfants, qu'on a fait des fois à Ivry en fête, ou dans les centres de loisirs, comme avec Idrissa, ou d'autres qui sont parmi vous là.
Comment fabriques-tu tes instruments ?
Alors en fait, en me promenant, dès que je vois un objet que je pense qui peut faire un son, je le récupère Et ensuite, arrivé chez moi, je regarde et je le transforme ou je l'adapte à quelque chose ou je le fabrique avec la matière de base. Ça peut être du bois, du métal, du plastique, du verre, etc. On peut vraiment faire des sons avec beaucoup de choses quand on se penche là-dessus et qu'on écoute. Et voilà. Et donc ensuite, je modifie jusqu'à ce que ça me semble avantageux d'en faire quelque chose. Ça marche pas toujours.
Pourquoi construis-tu tes instruments avec du matériel recyclé ?
Parce que je trouve ça intéressant, en fait, d'explorer. En fait, alors je cherche pas forcément à refaire un instrument. Il y a des gens qui font ça, qui existent déjà avec des matériaux recyclés. Moi, j'essaye de vraiment chercher le son que le matériau produit et d'en faire quelque chose d'autre. C'est plus pour une exploration sonore, pour éventuellement découvrir des sons ou... C'est vrai que je trouve que c'est intéressant aussi que les objets, parce qu'on est dans un monde où on jette beaucoup de choses, et que les objets continuent à vivre plutôt. Écologique on peut dire, mais surtout je trouvais intéressant que quelque chose qui a été jeté ou qui serve plus puisse redevenir et continuer à avoir une vie comme ça.
Construis-tu tes instruments dans une cave ?
Alors, parce que c'est l'endroit que j'ai chez moi. En fait, la cave sert à ça, parce que je vais pas le faire dans mon salon, parce que quand même, ça peut faire de la poussière, des copeaux, etc. Et en fait, j'ai la chance d'avoir une cave, parce que avant, quand j'habitais dans un petit appartement, je pouvais pas faire tout ça. C'est presque grâce à la cave que j'ai pu développer plus ce travail.
Tu fabriques des instruments que tu appelles abrasion, ludo-ingophone. Pourquoi leur donnes-tu des noms ? Comment trouves-tu ces noms ?
Alors, il y a aussi, là, on parlait tout à l'heure de recycler, de redonner une vie à des objets qu'on a abandonnés, jetés, etc. Donc, leur donner des noms, c'est un peu une façon de continuer à les faire vivre aussi. Et puis, je trouve, c'est encore un petit peu une façon ludique. L'arbrasson, c'est parce que c'est un objet assez grand qui ressemble un petit peu à un arbre. Doing, tu as dit doing, mais c'est doingophone. C'est parce que je l'ai amené ici, vous l'entendrez tout à l'heure. C'est un objet qui fait ce son un peu, qui fait doing, hein, qui fait un peu parce qu'il est fait avec des aiguilles à tricoter et des ressorts. Donc voilà, c'est et puis comme ça définit aussi un petit peu que c'est devenu vraiment autre chose qu'un objet.
C'est terminé pour notre émission.
Merci, monsieur Dominique, d'avoir répondu à nos questions.
Merci de m'avoir accueilli. Merci à Arnaud, je crois aussi, c'est Arnaud, votre professeur. Et puis, je pense qu'on se recroisera, qu'on se reverra et qu'on pourra encore partager des moments musicaux et autres d'ailleurs.
Reportage dans mon cartable.
Tout de suite, on écoute la chanson de la semaine avec l'artiste Presque Oui et sa chanson Tout me va, enregistrée dans la classe des CM2 de l'école du 6 septembre.
Tout me va, tout me va, tout me va,
suis bien là où je suis, là où j'atterris, tout me va. Le vent souffle, j'obéis, c'est lui qui choisit, tout me va. À droite ou à gauche, là-haut, tout en bas, beau, moche, rond, plat, mort ou vif, tout me va. Jaune ou rouge ou vert, une heure ou deux mois, terre, mer, tout droit, de travers. Ou la suite, tout me va. Après tout, pourquoi pas si ou pas ça? C'est toi qui vois, tout me va. Là, j'ai oublié des mots, par exemple. J'ai oublié un petit mot. Ça, c'est pas dans la chanson, hein. Je vous parle, mais c'est dans la chanson. Voilà. C'est après tout, pourquoi pas si ou pas ça? C'est toi qui vois, pas d'avis, tout me va. C'est quoi ce type ahuri? Ni chaud, ni froid, pas d'envie. Et là c'est vous qui dites.
Tout lui va,
tout lui va, tout lui va. Tout lui va. À vous.
Tout lui va, tout lui va.
Là, c'est beau ça.
Tout lui va, tout lui va.
Et je continue. Bangladesh, Burundi, Seychelles ou Chili, tout me va. L'enfer, le paradis, la soie ou la suie, tout me va. Peut-être j'ai pas le nerf ou le muscle, pas chat, mollusque, en tout cas. Peut-être je suis pas vraiment d'ici, martien, pingouin, en tout cas. Peut-être j'ai pas, peut-être j'ai plus, peut-être perdu ou perdu la voix, peut-être pas si, peut-être pas vu. Peut-être pas vu, peut-être, 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 on ne sait pas, en tout cas.
Bonjour, bonjour, c'est Florence au micro qui va bientôt faire la technique de bibliomanie, sauf que l'invité a eu un problème et va arriver en retard. Donc, en attendant bibliomanie, je vous propose une compositrice de musique classique qui s'appelle Thérèse Brunet et c'est un disque chimère de l'ensemble orchestral Strigendo. Avec une harpiste, un mandolinier, je ne sais pas comment on dit, et un guitariste, Thérèse Brunet, B-R-E-N-E-T, est née en 1935. Et voici, Chimère, concerto pour mandoline et orchestre à cordes qui dure presque 17 minutes. À bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux. Nous recevons Émilie Lanaise pour Folcoche, qui c'est un récit, c'est une rencontre-enquête. Folcoche, ça vient de paraître aux éditions Grasset. C'est un texte, c'est une rencontre, j'allais dire, Émilie Lanaise. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que c'est une rencontre avec une femme. Qu'est-ce qui se cache derrière un personnage de roman? On est toujours, c'est fou, ce surnom de Folcoche, qui désigne une mère indigne, une mère vraiment qui a tous les défauts. Fameux roman de Vipère au poing d'Hervé Bazin. Finalement, cette création littéraire a effacé cette femme que vous remettez. Enfin, j'ai beaucoup aimé votre livre. Pour cette rencontre avec cette femme qui est devenue une femme de l'ombre, tout en étant malheureusement dans la lumière, mais elle était dans la lumière pour ses mauvais côtés. Alors je voudrais que vous nous racontiez le point de départ de ce livre, c'est un peu la question bateau, mais le point de départ de ce livre, Émilie Lanaise, quelle était vraiment votre première rencontre avec cette femme qui s'appelait Paul Guillotot et qui était la mère d'Hervé Bazin?
Ma première rencontre, c'est que quand j'ai eu cette idée... un peu saugrenue, enfin, je ne sais pas trop vous dire comment j'ai eu cette idée de me demander, finalement, cette femme, Folcoche, passe dans tous les esprits pour être l'incarnation, le monstre absolu, la mauvaise mère par définition. Et j'ai eu un peu envie de me dire, mais c'était qui en vrai la mère d'Hervé Bazin? Qui était Paul Guillotot? C'était vraiment ce monstre? Si elle était ce monstre, pourquoi? Donc, au départ, une question assez basique. Et ma première rencontre, puisque c'est ce que vous me demandez, c'est assez vite. Je suis allée visiter la maison où ils avaient habité, une espèce de petit château en Anjou, qui est aujourd'hui transformé en maison d'écrivain, un musée, qui est habité par un monsieur très charmant. Et qui lui connaît très bien l'histoire de la famille, puisqu'il y a eu très peu de propriétaires de cette maison, et en me raccompagnant, après avoir visité le musée, qui est... le musée reprend l'histoire, Folcoche le monstre, hein. En me raccompagnant, il y a une pelouse un peu devant la maison, et en me raccompagnant, il me dit, regardez, c'est ici que Folcoche...